Bonjour à tous, Boker Tov, bienvenue. On reprend notre étude hebdomadaire, j'ai envie de dire. Et comme on avait l'habitude, chaque jour, un autre sujet. Et c'est vrai que d'habitude, le lundi, eh bien, on étudiait la Tefila. Mais comme hier, on a fait un grand cours sur Yom HaShoah. Donc, hier soir, on a fait un cours sur Yom HaShoah. Donc, j'ai changé, interverti. Aujourd'hui, on voulait faire le cours de Yom HaShoah, le cours de, en fait, il y en a des Yoma. On fait à l'envers aujourd'hui, donc on revient à notre étude de la Tefila. Et donc, on est dans notre quatrième cours sur les balbutiements de la Tefila, justement en introduction toujours à la Amida. On a fait trois cours déjà pour nous expliquer quels étaient les tenants pour qu'on puisse se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Alors, petit rappel très très rapide. Dans notre premier cours, on a expliqué qu'a priori, on n'avait pas le droit de prier si on n'était pas prophète. Donc, on a dit que seuls les prophètes avaient le droit de prier. Nous ne sommes pas prophètes, mais nous utilisons les mots des prophètes, donc nous pouvons prier. Dans notre deuxième cours, nous avons expliqué que le paradoxe de Moshe Rabbeinu, le paradoxe de Kol Nidre, en d'autres termes, que pour pouvoir prier, il ne faut pas être seul à prier, il faut s'intégrer dans la collectivité du peuple juif. Et dans notre troisième cours, juste avant Pessah, eh bien, nous avions expliqué, ok, très bien, mais à qui je m'adresse ? C'est au niveau conscient à qui je m'adresse. On a parlé de l'inconscience au niveau de ma relation au prophète. Mais moi, profondément, lorsque je prie, à qui je m'adresse, eh bien, on a expliqué qu'il fallait avoir devant les yeux l'idée que Akadosh Baruch Hu, celui à qui je m'adresse, c'est son dévoilement en tant que Goël Israël, en tant que libérateur d'Israël, celui qui amène la Géoula au peuple juif. Et donc, on avait terminé là-dessus en disant, bah, c'est bon, alors on peut prier, mais il reste quand même une dernière question à laquelle il va falloir répondre, et pas des moindres. Et si on n'y a pas répondu, eh bien semble-t-il qu'effectivement, la prière laisse tomber, ça ne marchera pas. Et donc, quelle est cette dernière question ? Eh bien, dans la tefila, on a expliqué au tout début de notre étude que la tefila, ce sont des demandes. C'est demander à Dieu qu'il exauce ce qu'il me manque. Bon, je veux bien, mais ça relève d'un vrai problème. Ça révèle un vrai problème, à savoir, tu vas demander à Dieu. Aval miata bichlal. Et je ne parle pas seulement en tant qu'individu, miata klal Israël, pour venir te présenter devant Akadosh Baruch Hu. Pas dans le sens, tu ne sais pas à qui tu parles. Non, non, tu sais à qui tu parles. Mais le problème, c'est toi. Est-ce que toi, tu mérites de te retrouver devant Dieu, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Alors, cette question est une véritable interrogation. Alors, on a essayé d'y répondre un tout petit peu dimanche, c'est pour ça que je vais aller vite dans la première partie, mais vous allez voir où est-ce que ça va nous amener. Dimanche, on avait relevé la question de Miani et Fohani dans tout cela. Eh bien, comme on l'avait expliqué, eh bien, je ne suis rien. Miani Bichlal. Ani Kloum Aval. Je ne suis peut-être rien, mais ce rien en question, c'est le créateur du monde qui a décidé de le mettre ici. Et donc, ça veut dire que je ne suis pas si rien que cela. Je vous ramène ici donc l'enseignement du Rav Kook qu'on avait étudié dimanche. Donc, je vous ramène au cours de dimanche, qui suis-je, pour bien voir cela en profondeur. Et je vous lis le texte. Nous dit le Rav Kook dans Olat Re'iya sur la question de Modé Ani. Il explique ça au niveau du mot Ani. Adam motse et atzmo be'atzmo. On est concentré sur nous-mêmes. Al'ede or achayim Elohim amofiim bekirbo. Nous avons une lumière divine qui nous pénètre. Ben oui, de quoi on parle ? Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie. Je me réveille le matin, je suis plein de cette vie. C'est extraordinaire. J'ai un sentiment de reconnaissance profond. Mais tout d'un coup, là, je me suis frotté les yeux, j'ai dit Modé Ani, je me suis lavé les mains et je prends conscience un petit peu de moi-même. Et à ce moment-là, Kibeman Ershava Adam Bechalishut Kocho. Et oui, l'homme fait face à la réalité, qu'il n'est pas grand-chose dans ce monde. Beafsiuto Vezeiruto Neged Kolayikum Agadol Veatsum. Et comme j'ai parlé de l'exemple des chutes du Niagara, Miani face à cet univers incroyable. Vekorot Abriya Adirim Vaniflaim Aotrimoto. Mirov Shimemon Leumatam, face à cette petitesse qui est la sienne comparée à l'univers, eh bien, Oved à Adam et Tochena Anishelo, il pourrait perdre son intérêt en lui-même. À ce moment-là, Omnam, Be'ir alav, oto haor, shel hakarat hatova elohit. Lorsque à ce moment-là, tout d'un coup, il se rend compte que c'est Dieu qui lui a donné la vie. Vechol haseifim hakdoshim kebirei oz hakodesh shehi me'ira bekirbo. Il se rend compte qu'en fait, tout le monde entier qui a été créé, ben lui aussi, il a été créé par le même créateur. Hasba adam la'akir et gdulat erko. Donc enfin, ben non, mais en fait, je suis important. Puisque il y a des planètes incroyables qui ont été créées par Dieu, et puis il y a moi aussi. Donc, à ce moment-là, il se rend compte que Gdoulat Erko est Aniyuto, son moi profond, il en prend une conscience importante. Ve'ader bitulo beklalut ha'avaya, et donc il comprend qu'il n'est pas annulé dans ce monde. Il participe à ce monde. Umotze et atzmo me'ushar lomar befemale ani. Enfin, il peut dire à pleine bouche, moi. Eh oui, j'ai une place dans tout cela parce que Dieu m'a donné cette place. Donc ça, on a expliqué en détail dans le cours de dimanche. Ceux qui veulent aller revérifier, le cours s'appelle en français, je crois, « Qui suis-je » dans tout ça, et en hébreu « Miani », celui qui veut. Donc voilà, moi, je ne suis pas annulé. Si je suis là, si Dieu m'a rendu la vie tous les matins, et je dis « Modéani » pour cela, eh bien, c'est que je vaux quelque chose. Donc la question de dire « Miata Bichlal » pour te présenter devant Dieu, on y a répondu. Au niveau collectif, la question reste posée. C'est-à-dire au niveau du peuple juif. Est-ce que le peuple juif peut toujours prétendre à dévoiler la volonté du Créateur ? Peut toujours prétendre à être celui qui fait le lien entre le Créateur et la créature ? Eh bien, ça, c'est un vrai problème. Là, il y a une vraie question. Car on a dit, dans le cours précédent de la Tfila, que pour pouvoir prier, il fallait... Quand on parlait de Moshe, il fallait être Am Israël. Mais est-ce que Am Israël mérite ? Grande question. Eh oui, grande question. Vous savez qu'il y a déjà quelques années, il y a une communauté humaine qui a dit, je cite, « Certes, certes, vous étiez le peuple élu, mais vous avez fauté et vous ne pouvez plus corriger cette faute. Donc, maintenant, vous n'avez plus le droit d'être les représentants de Dieu sur terre. Il va falloir passer la main au vrai Israël, Verus Israël. » Je suis en train tout simplement de vous dénoncer toute la théologie catholique particulièrement. La théorie du vrai Israël que le peuple catholique, enfin le peuple, que la religion chrétienne catholique a remplacé Israël. Mais sur quoi cela se base ? Et les amis, posons-nous une question. Oui, posons-nous une question. Vous savez, quand on parle de Torah, il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. Torah écrite, Torah orale. Le texte, c'est très bizarre de dire cela, le texte qui parle de la Torah orale, le texte de référence de la Torah orale, elle n'est pas orale. Mais au début du IIe siècle, suite aux pressions romaines et à l'interdiction pour les Juifs de se rassembler, eh bien, le chef du Sanhédrin, Rabbi Yehuda Hanassi, décide de compiler la Torah orale par écrit. Il sait que c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre par écrit les choses qui sont censées être par orale, de la même façon qu'on n'aura pas le droit de lire par cœur, de réciter la Torah écrite. Dans le Sefer Torah, lorsque le Baal Koré, à la synagogue, lit dans le Sefer Torah, il n'a pas le droit de lire par cœur. Il doit lire chaque mot. Et des fois, on a peut-être des petits problèmes sur les deux derniers dans le texte. Donc, on n'a pas le droit de mettre par écrit quelque chose qui était par oral. Et Rabbi Yehuda Hanassi va faire ce qu'on appelle « Et la asot l'Hashem eferutera techa ». Des fois, pour faire la volonté de Dieu, dans des cas extrêmes, eh bien, il faut transgresser la Torah pour pouvoir la faire se réaliser. Et donc, il met par écrit la Torah orale, la Mishnah. Très bien. Mais par quoi commence-t-il ? Quelle est la première Mishnah du chasse ? Le premier enseignement de la Torah orale, d'après Rabbi Yehuda Hanassi, qui va être notre point de référence jusqu'à aujourd'hui, finalement. Eh bien, la première Mishnah dans le traité de Brachot nous dit la chose suivante. « Me'ematai korin et shema be'arvin. » Et si on lit ça de manière assez, on va dire, frontale, eh bien, ça voudrait dire à partir de quelle heure peut-on dire le shema le soir ? Bon, écoutez-moi bien. C'est important de savoir à quelle heure on peut dire le schéma le soir. Mais franchement, tu commences toute la Torah orale par une question technique. de savoir à partir de quelle heure on peut dire le Shema. Vraiment. C'est ça qui dérange Rabbi Yehuda Hanassi. Mais Matai Korin et Shema Barvin, d'autant plus que la réponse qu'il donne n'est pas du tout bonne. Puisqu'il nous dit, mais Matai, Misha, Shah Kohanim, Drasim, Leitrol, Bitroumatan. C'est-à-dire à l'heure où les Kohanim, à l'époque du Bet Amigdash, pouvaient manger la Terouma, c'est-à-dire la partie sainte des sacrifices qu'ils avaient reçus ou la partie sainte qui avait été donnée en cadeau aux Kohen par les Béné Israël. Ça ne me dit pas à quelle heure c'est. Hein. Le Talmud, qui vient expliquer cette Mishnah, va tout de suite nous dire c'est pas du tout intelligent. Parce que c'est quoi cette réponse à l'heure où les Kohanim peuvent manger la Terouma? Mais nous savons à quelle heure les Kohanim peuvent manger la Terouma. C'est à l'heure de la sortie des étoiles. Ce qui est un repère temporel quand même beaucoup plus évident que de savoir à quelle heure les Kohanim mangent. En d'autres termes, en fait, la Mishnah, si elle avait voulu nous apprendre un problème technique de à quelle heure on peut dire le schéma le soir, eh bien, elle aurait dû répondre à l'heure où il y a trois étoiles. Fastoche! Seulement, ce n'est pas du tout à cela que la Torah veut répondre. Oui, Bederech Agav, entre parenthèses, on va t'apprendre aussi qu'on lit le schéma le soir à partir de la sortie des étoiles. Mais ce qui nous intéresse, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, nous dira le Talmud, comme je l'ai dit, qu'on voulait t'apprendre quelque chose, Bederech Agav. C'est pour ça qu'on t'a fait cette formulation. À partir de quelle heure, ce n'est pas une question temporelle. On s'en fiche pas. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Venez, relisons la question de la Mishnah. Mais Matai, depuis quand? Pas dans le sens à quelle heure, mais dans le sens de quel droit? Depuis quand tu fais ça? D'où? De quel droit? Mais Matai, Korin et Shema. L'Ikro et Shema, ça veut dire proclamer que Hashem Echad. Donc, être celui qui est le vecteur du dévoilement divin. De quel droit tu peux être le vecteur du dévoilement divin, Arvin, à l'époque de l'exil? Arvin, c'est le soir, la nuit. La nuit, dans la littérature talmudique, c'est l'exil. Voilà une question. De quel droit le peuple juif continue-t-il à être le vecteur du dévoilement divin en période d'exil? Pourquoi cette question? Eh bien, pour une raison très très simple. Mais oui, les chrétiens, eux, disent qu'on ne peut plus être le vecteur du dévoilement divin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne peut plus corriger nos fautes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, lorsque on faute, eh bien, il y a tout un stratagème pour revenir au niveau avant la faute. Ce stratagème, il est fait de trois choses. Slicha, Mechila, Vekapara. Slicha et Mechila peuvent s'obtenir par la teshuva. C'est le point de départ. Tu as fait quelque chose de mal, il faut faire teshuva. C'est-à-dire regretter ce que tu as fait, exprimer ce que tu as fait et promettre de ne plus le refaire. Tout simplement. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau collectif. Mais qu'en est-il de la kapara? L'expiation. Eh bien, la kapara, tu as amené au Bet Amigdash un sacrifice expiatoire. Beseder. En ba'aya. Sauf que yesh ba'aya. Eh oui, il y a un grand problème. Nous disent les chrétiens, mais que faire depuis que vous n'avez plus de Bet Amigdash? Vous n'avez donc plus de Misbéar Kapara. Vous ne pouvez donc plus être les dévoileurs du nom de Dieu. Puisque la Kapara pour vous, c'est finito. D'ailleurs, les chrétiens n'ont même pas besoin d'aller chercher une faute quelconque qu'on aurait pu faire. Puisque je vous rappelle que d'après la théologie chrétienne, nous sommes tous fauteurs. C'est-à-dire que nous sommes nés fauteurs. Eh oui, les chrétiens nous disent, mais enfin, c'est marqué dans la Torah. Ve'adam yada et chava ishto. Et l'homme a connu bibliquement, a une relation sexuelle avec sa femme. Seulement, ce verset apparaît quand? Apparaît après l'expulsion du Gan Eden et donc le péché originel. Les chrétiens vont donc nous dire, donc tu vois bien, l'acte sexuel, c'est le résultat du péché. Donc, toute personne qui est ici, c'est qu'il est né d'un acte sexuel, c'est qu'il est porteur en lui de l'incidence du péché originel. En d'autres termes, tout le monde est né fauteur. C'est pour ça que d'ailleurs, pour la théologie, eh bien, seul un homme qui ne viendrait pas d'une relation sexuelle, et de là l'Immaculée Conception, et j'en passe, et des meilleurs, pourrait être le sauveur. En quoi ont-ils tort, nos amis chrétiens? Parce qu'ils ont tort. Mais ils ont tort simplement parce qu'ils ne savent pas lire l'hébreu. Ils ne comprennent rien à ce qui est marqué dans la Torah. Alors, je ne leur en veux pas. En France, en Italie, on ne connaissait pas très bien l'hébreu, la grammaire. Mais ils n'ont pas lu non plus Rashi, qui nous a expliqué la grammaire. Rashi nous dit, dans ce verset de Bereshit, au chapitre 4, verset 1, nous dit Rashi un grand principe. Lorsque dans la Torah, il faut comprendre le langage de la Torah, lorsque dans la Torah on nous parle d'un événement passé, eh bien nous dira Rashi que grammaticalement en hébreu tanachique, on met d'abord le verbe et ensuite le sujet. Vayar Avraham, par exemple, et Avraham a vu. Mais lorsque dans la Torah, on nous parle d'un événement passé et on nous met d'abord le sujet et ensuite le verbe, comme ici, Ve'adam yada, et travaïchto, et Adam connu sa femme, nous dit Rashi, ce n'est pas du passé, c'est du passé antérieur. En d'autres termes, ça nous raconte un événement qui s'est passé encore avant l'événement qu'on vient de te parler. En d'autres termes, quand est-ce que ça s'est passé, Ve'adam yada, et travaïchto? Eh bien, dans le Gan Eden, avant la faute. Nous ne sommes donc pas du tout nés fauteurs. Par contre, nous pouvons fauter. Et la question revient. Si l'âme Israël continue à fauter et qu'il ne peut plus amener son korban kapara, que faire? Eh bien, c'est là qu'on retrouve notre Gemara qui nous dit à quelle heure on peut dire les schémas, c'est-à-dire depuis quand on a le droit d'être vecteur du dévoilement de Hachem Echad? À partir du moment où les Kohanim peuvent manger la terouma. Et la Gemara nous expliquera tout simplement. C'est quoi cette histoire de Kohanim, Trouma? Un Kohen, il peut manger la Terouma à partir de la sortie des étoiles. Disons, monsieur Kohen, qui travaille aujourd'hui, c'est son jour de boulot au Beth Amikdash. Et il vient de recevoir Matnot Keuna, il vient de recevoir des pommes Mitrouma. Donc ce sont des pommes à manger en état de pureté et de sainteté. Il est très content, il se dit ce soir, on va se faire une tarte aux pommes fantastique à la maison. Et donc, il est avec son sachet de pommes. Il est très content. Il est 4 heures de l'après-midi. Il sort de sa garde au Beth Amikdash et il se prépare à rentrer chez lui. Il va annoncer à sa femme et ses enfants, ce soir, tarte aux pommes Bigdoucha. Et là, terrible, en descendant les marches du Beth Amikdash, eh bien, il glisse sur une peau de banane que quelqu'un avait jetée là. Et là, tout le monde pense qu'il va se rétamer, mais pas du tout, car notre Cohen est un champion olympique de breakdance. Il réussit avec une main à se rattraper, à faire un salto arrière et à retomber sur ses pieds. La folie, le public est en délire. Ouah, Cohen ! Le seul problème, c'est que là où il avait posé sa main pour faire son flippé double salto arrière, eh bien, sa main a touché un lézard mort qui était là et qui traînait par là. Résultat des courses maintenant, notre Cohen a la classe, mais il est tamé. Et donc, il ne pourra pas, dans cet état-là, manger sa tarte aux pommes, ni même la préparer. À ce moment-là, nous dit la halakha, que fait-il? Eh bien, il doit aller au mikvé avant la tombée de la nuit, avant la sortie des étoiles. Et à ce moment-là, il pourra manger de la terouma. Et demain matin, le lendemain matin, il amènera un korban, un sacrifice d'expiation au Beth Amikdash. Il emmènera un korban kapara au Beth Amikdash. Nous pose tout de suite la question dans le Talmud. Et si jamais il n'y a pas demain matin, il n'y a pas de Beth Amikdash demain matin, il a disparu pendant la nuit. Azma, qu'est-ce qu'il fait? Et là, le Talmud dit, la kapara n'empêche pas. Et voilà la réponse à nos amis chrétiens. Certes, nous n'avons plus de misbeach kapara depuis 2000 ans. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de pouvoir dévoiler Dieu dans le monde. Accapara l'homme et à Kevet. Donc, pas de problème. Maintenant que j'ai répondu à cette théologie chrétienne erronée, eh bien, je peux y aller. C'est bon. Alors, allons-y. Maintenant que je suis libre de toute faute au niveau collectif, eh bien, je me présente devant Dieu et je vais lui demander tout ce que je vais lui demander dans la Amida. Attends, deux secondes. Tu vas demander à Dieu de te donner des choses. Ok. Mais excuse-moi, est-ce que tu mérites? Est-ce que tu mérites? Quand on a commencé le cours, on a dit « Miani et Birlal me demander ». Ça, on a expliqué « je vaux quelque chose ». D'accord? Ça, c'est dans l'essence. Mais dans les faits, Dans les faits, tu vas demander à Dieu qu'il te donne une glace. Sauf que toi, tu viens de lui désobéir. Alors, hier, j'ai discuté avec quelqu'un au téléphone qui me disait, mais j'ai une amie, je ne comprends pas. Elle est en conflit permanent avec Dieu. Et elle dit, mais je ne comprends pas, je lui demande plein de trucs, il ne me donne jamais rien. Et après m'avoir présenté un petit peu l'ambiance de la copine en question, elle me raconte que c'est une personne qui, comment te dire ça gentiment, elle s'en fout un petit peu de ce que Dieu lui a demandé de faire dans la vie. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Et elle dit, je ne comprends pas, moi je demande plein de trucs à Dieu, il ne me donne pas. D'abord, je lui ai dit, d'abord, tu ne sais pas s'il te donne ou s'il ne te donne pas. Prends un tout petit peu de recul. Mais au-delà de ça, attends, toi, tu passes ta journée à contredire ce qu'il t'a demandé. Pourquoi tu veux que lui soit sympa ? En d'autres termes, tu vas demander à Dieu qu'il te donne plein de choses. Mais Dieu, il peut te répondre, mais mon coco, à ta malheur, Averot, tu es plein de fautes. Je parle pas d'au niveau du clan Israël. Ça en a répondu. Je parle toi. Toi, individuellement. Tu vas lui demander plein de choses à Dieu, mais toi, tu as fait des avérotes. Donc, comment tu te permets de venir demander des choses ? Tu es en règle avec lui ? Eh oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. En d'autres termes, il semblerait que si on ne fait pas teshuva avant de faire la tefila, eh bien, ça ne sert à rien de prier. Parce que c'est l'offert. Enfin, c'est complètement, j'allais dire, hypocrite. Imagine-toi un enfant qui vient voir son père et qui lui demande des choses. Mais juste avant, il n'a complètement pas fait ce que son père lui a demandé. Regarde, mon fils, tu ranges le petit déjeuner, tu ranges la table, machin, c'est toi qui as mangé, c'est toi qui as tout sali, c'est toi qui nettoie, et après, on pourra aller jouer au foot. Et lui, il s'en fiche, il ne range pas. Il va jouer avec ses jouets. Et 10 minutes plus tard, il te dit, papa, on va jouer au foot, t'as dit. Je dis, bah non. Je t'ai dit de ranger d'abord. Tu ranges pas, il n'y a pas de raison que moi je te fasse un kiff. Donc, a fortiori, Dieu. Alors vous allez me dire, Dieu, il n'a pas besoin, il est au-delà de tout ça, il peut... S'il veut. D'ailleurs, s'il veut, Dieu, il te donne, même si tu ne mérites pas. Mais de mon point de vue, je ne peux pas me présenter vers lui si je ne mérite pas. Et si je suis plein d'avérotes, ben je ne mérite pas. Et donc, eh bien, il faut, pour pouvoir commencer la tefila, il faut faire tshuva. Et nos sages le savaient très bien. C'est pourquoi nos sages ont décrété qu'avant de commencer la tefila, on allait dire une phrase. Une phrase. Et cette phrase, c'est toute notre tshuva. Avant de commencer la Amida, on dit cette phrase. Adonai sefatai tiftar ufi agid tehilatecha. Cette phrase, c'est la tshuva. D'abord, il faut savoir d'où elle vient, cette phrase. Adonai sefatai tiftar ufi agid tehilatecha, c'est une phrase qui vient de Tehilim. C'est Tehilim nun aleph au verset yud gimel. Yud zayin, slicha. Tehilim, chapitre 51, verset 17. Qu'est-ce que cette phrase vient nous dire ? Dans quel contexte le roi David a-t-il dit cette phrase ? Eh bien, je prends le Tehilim avec moi et tout de suite, je comprends. Puisque le Tehilim me dit que David a écrit ça après sa faute avec Bathsheba. Et voilà comment cela commence. Haneni Elohim ki chasdecha kerov rachamecha mechei pesha'ai. Tout de suite, David dit, s'il te plaît, annule mes fautes. Et il continuera pendant tout le Tehilim. Iné. Purifie-moi de ma faute. Ki pesha'ai ani eda. Vechatati negdi. Vechatati negdi. Tamid. C'est-à-dire que David ne parle que de reconnaître sa faute. Lecha levadecha chatati. Ve'ara beinecha asiti. Leman tizdak bedavarecha. Tizke beshvatecha. J'ai fauté devant toi. David ne cherche pas d'excuses. En be'avon cholalti, bechet yemat ni'imi. En emet, chafatzta betaron. Vosarot bechokhma. David ne s'arrête pas de reconnaître son erreur. Et il lui demande donc à Dieu, surtout, Surtout, Lev Taor Barali Elohim, Veruach Nachon Chadesh Bekirbi. Mais tu m'as créé comme étant quelqu'un de bien. Allez, aide-moi à redevenir quelqu'un de bien. Ne m'abandonne pas, je veux revenir vers toi. En fait, tout ce Tehilim, c'est la grande tshuva de David. Et il termine sa tshuva en disant Adonai sefatai tiftach ufi agid tehilatecha. En d'autres termes, Chazal aurait dû dire qu'on dise tout le Tehilim nun alef avant la tfila. Bon, ils ont eu pitié de nous et ils nous ont mis que la dernière phrase de conclusion. En d'autres termes, cette phrase vient nous dire Ani choser bitshuva al maasai. Mais en quoi cette phrase, j'ai compris quand on la met dans le contexte du Tehilim, mais en quoi elle toute seule veut déjà dire que c'est tshuva? Et bien simplement parce que c'est Adonai sefata et tiftar. Et quand je dis Adonai, je ne dis pas Yudke Vavke que je prononce comme étant Adonai. Là-bas dans le Tehilim, c'est marqué Aleph Dalet Nun Yud. C'est-à-dire qu'on parle ici vraiment de Dieu en tant que mon Seigneur, mon patron. Quand je dis Adonai, j'accepte que Dieu, c'est mon boss. En cela, je viens dire, ben voilà, donc j'accepte ton autorité, donc j'accepte de revenir vers tes commandements et je regrette ce que j'ai fait de pas bien que tu m'avais dit de faire. En d'autres termes, Adonai, c'est fatal, tiftar, ou fiagit, c'est la terra, c'est atchouva. Donc une fois que j'ai dit cette phrase, très honnêtement, je ne suis pas un robot. On a déjà dit ça, quand je prie, je ne suis pas un robot. Et celui qui robotise quand il prie, qu'il arrête de robotiser. Donc quand je dis Adonai, c'est fatal, tiftar, en fait, je fais tshuva. Ça, c'est vrai pour le début du pasouk. Adonai sefata et tiftar. D'ailleurs, Rashi, dans son commentaire de Tehilim, dira Mazé Adonai sefata et tiftar, Machol li veten li pitron pe. Pardonne-moi et ouvre ma bouche. Sauf que Rashi continue en disant Ufi agid tehil la techa. Mazé Ufi agid tehil la techa. Ben, c'est ce qu'on dit. Adonai sefata et tiftar, ufi agid, tehila techa. Aval, qu'est-ce que c'est? Tehila. Mais c'est tehila. Tehila, ce n'est pas Hallel. Ça ressemble à Hallel, mais ce n'est pas Hallel. Hallel, Hallel, ça veut dire quoi, le Hallel? Eh bien, le Hallel, ça ne veut pas dire louer. Dans tous les sidourim qui sont traduits, on dit Hallel, ça veut dire louer. Non, faux. Louer, c'est le Shabbat. Remercier, non, faux. Remercier, ça veut dire le Hodot. Glorifier, non, faux. Glorifier, c'est le Fa'er. Que veut dire le Hallel? Il veut agrandir Dieu. C'est l'Agdil. Mais c'est le Hallel. Le Hallel. Eh bien, en hébreu, le mot Hallel, le Hallel, la racine verbale, vient de la racine Halef Lamed Lamed. Halal, pas halal, halal. En fait, ça vient de quelque chose. Vous savez, en hébreu, quand on dit un livre, on dit sefer. Lorsqu'on veut définir de quel livre on parle en particulier, on utilise ce qu'on appelle l'article défini. Ha-sefer. L'article défini, ce n'est pas seulement un hey avec un patach en dessous, c'est également un point dans la lettre suivante. Ce point dans la lettre suivante, c'est comme l'accent circonflexe en français. Il vient nous expliquer qu'il y avait une lettre à l'origine qui est tombée. Cette lettre à l'origine, c'était un lamed. Et on peut le voir dans la Torah. Lorsque Yosef arrive à la rencontre de ses frères, eh bien ses frères lui disent « Oh, hine ba la chalomot halazeba. » Voici ce rêveur qui arrive. Le rêveur de ses rêves. Et ils ne disent pas comme on dirait en hébreu moderne, mais ils disent hal lazé, en un mot. De la même façon qu'à Hanouka, on ne dira pas anerot à elou, mais on dit anerot à lalou. Donc l'article défini à l'origine, c'était hal, pas seulement ha, mais hal. Et donc, lorsque tu peux prendre un mot de deux lettres et en faire une forme, une racine, c'est-à-dire grammaticale, mais il faut trois lettres, donc tu vas doubler la consonne. De hal, qui est l'article défini d'origine, eh bien, le verbe, la racine deviendra halal, le halel. En d'autres termes, le halel, ça veut dire définir. Mais définir qui? Lorsque tu dis halleluya, tu essayes de définir Dieu. Mais attention, je vous arrête tout de suite. On ne peut pas définir Dieu. Bien sûr que non. on ne peut définir que ce que Dieu laisse nous faire entrevoir. D'ailleurs, quelle est l'origine de tous les Hallel ? L'origine de tous les Hallel, d'après le Talmud dans le traité de Psachim, c'est la Shirat Hayam. Shirat Hayam, c'est l'origine du Hallel. Et dans la Shira, Aziashir Moshe, eh bien, on dira à un moment donné, Zé Eli Ve'anveu. Et je fais ce geste-là parce que Rashi dira, Zé, c'est quelque chose qu'on peut pointer du doigt. En d'autres termes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ont pointé du doigt, ils ont dit, oh, ça c'est Dieu. Je ne peux pas te l'expliquer, j'étais pas là-bas. Neshama peut-être, mais moi je ne me rappelle plus. Et ça ne veut rien dire théologiquement parlant définir Dieu. Et pourtant, ils ont dit Zé Eli Ve'anveu. En d'autres termes, les Hallel, c'est être face à une réalité où Dieu se dévoile de manière palpable, sans écran, et à ce moment-là, bah, tu dis, bah, ça c'est Dieu. Mais tu ne peux pas voir ça tous les jours. Car tous les jours, tu ne vois pas Dieu. Et c'est pour ça que la Gemara dans Maseret Shabbat, à la page 118, nous dira, celui qui dit le Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. Parce que tous les jours, tu ne peux pas dire, oh, ça c'est Dieu. Non, c'est l'okacha. Quand il y a un dévoilement clair, alors il y a un dévoilement. Sinon, non. Donc c'est pour ça que le Hallel, c'est à Pessah, à Shukot, à Shavuot, Yom HaAtzmaout, Hanouka, des moments de la Geoula, c'est-à-dire des moments où Dieu se dévoile directement. Bon, vous inquiétez pas, on approfondira ça dans le cours de Yom HaAtzmaout la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, eh bien, on ne peut pas dire le Hallel tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, on dit Kehilu Hallel, genre Hallel. C'est quoi genre Hallel ? C'est Tehila. Lehit Hallel, c'est faire genre dire le Hallel. Comme le hit gadel, c'est se faire genre grandir. Zélo l'igdol, zélo le gadel, zélo hit gadel, c'est faire genre. Le hit hallel, c'est tout ce qu'on peut faire quand on ne peut pas dire le hallel. Et donc on dit tous les jours, ou fia guide, tehillatera pour l'instant, parce qu'on n'est pas capable de dire le hallel. Des fois, oui, il ne faudra pas les rater, mais dans la vie de tous les jours, non. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre de Tehilim, puisque des Tehilim, ce sont en fait des Tehilot, Tehila, et non pas des Hallel. Quand est-ce qu'on voit le mot Hallel apparaître pour la première fois dans Tehilim ? Eh bien, c'est au Tehilim 104. Nous dira le Talmud, dans le traité de Brachot, « Mea v'shalosh Tehilot amar David. » 103 Tehilot, a dit David. Et il n'a pas dit Alléluia. Jusqu'à ce qu'il voit, par esprit prophétique, la chute des Réchaïm. Et lorsqu'il a vu la chute du mal, alors enfin il a pu dire Vaitamu Chataim Minaharetz Urshaim Odehinam Barchi Nafshi et Hashem Alléluia. Enfin, à ce moment-là, il a pu dire Hallel. Lorsque le mal n'est plus présent, ou du moins lorsque on entrevoit un monde Kulotov, dans les moments où Dieu se dévoile, alors on peut dire le Hallel. Sinon, eh ben, on dira Tehila. En d'autres termes, maintenant j'ai compris, je suis armé, non seulement j'utilise les mots des prophètes, en plus je m'attache au peuple juif, en plus de tout cela, eh bien je sais à qui je parle à Goël Israël, je suis quelqu'un qui mérite de m'adresser à Dieu tant en tant que nation, car je reste celui que Dieu a choisi pour le dévoiler, et en tant qu'individu, parce que j'ai fait Teshuva avant de m'adresser à lui, je suis donc propre de tous mes péchés et je peux donc me présenter devant le Créateur et commencer ma tefila. Ça y est, nous n'avons plus de barrière et donc la semaine prochaine, nous pouvons enfin rentrer dans le texte de la Hamida pour commencer à savoir prier. Alors à la semaine prochaine.